déroulement du livre. Parcourant leur ville et leur village, il enseignait.
À Déroulement du livre, aujourd'hui, nous vous présentons la dernière de quatre émissions d'enseignement animées par le frère Louis-Saint-Mars, Capucin. La série s'intitule « Voir et faire voir l'enfant de Bethléem ».
Je suis heureux de vous retrouver pour cette dernière émission de notre méditation de l'Avent, qui a pour thème « Voir et faire voir l'enfant de Bethléem ». Une méditation sur le mystère de Noël avec le regard émerveillé de saint François d'Assise. Au cours de la dernière émission, nous nous sommes arrêtés à la prédication de François en cette nuit de Noël 1223. Une prédication qui n'est pas un discours ou un enseignement dogmatique, mais un exemple. En effet, ce que Thomas de Celano, son premier biographe, nous rapporte, c'est la joie qu'il ressentit devant la grotte où se trouvaient une mangeoire, un bœuf et un âne. Puis il parla de la naissance du pauvre roi et de la petite ville de Bethléem, avec des mots doux comme le miel, nous dit-il. Enfin, nous dit le récit, on célébra la messe sur la mangeoire comme autel. Ici encore, pas d'enseignement théorique, mais un geste, un rapprochement entre la mangeoire qui accueillit l'enfant Jésus et l'autel où est célébrée l'Eucharistie. Pour François, l'incarnation se prolonge chaque fois que l'Eucharistie est célébrée. Il écrit dans une de ses admonitions « Voici, chaque jour, il s'humilie comme lorsque des trônes royaux, il vint dans le ventre de la Vierge Marie. Chaque jour, il vient lui-même à nous sous une humble apparence. Chaque jour, il descend du sein du Père sur l'autel dans les mains du prêtre. » Avant de poursuivre notre méditation, reprenons certains des éléments que nous avons soulignés dans les émissions précédentes. Qu'est-ce que François nous démontre à l'occasion de cette célébration de la Nativité à Greccio en 1223? Tout d'abord que Jésus est au cœur de sa vie, et donc au cœur de la spiritualité franciscaine. Jésus contemplé dans l'abaissement de l'incarnation et dans l'humilité de l'Eucharistie et l'amour de la Passion. La spiritualité franciscaine est centrée sur l'Évangile dans lequel se révèle l'abaissement du Christ dans la condition humaine, dans le temps et dans les contraintes de l'espace. La spiritualité franciscaine a sa source évangélique à la crèche de Bethléem, écrit mon confrère, le frère Raphaël Rouffaut. L'événement de Greccio rend visible à nos yeux de chair la manière dont Dieu choisit de s'incarner, afin de se faire connaître. Le Verbe de Dieu choisit librement la pauvreté, l'humilité et la simplicité comme forme de vie, pour lui-même, pour sa mère et pour ses disciples. Humilité et pauvreté sont des choix de Dieu, manifestés en Jésus et assumés tout au long de sa vie. Pour François, ces choix sont de nouveau rendus visibles et réaffirmés dans l'Eucharistie, qui manifeste l'humilité de Dieu, une humilité qui ne doit pas simplement être contemplée ou adorée, mais imitée. L'événement de Greccio insiste aussi sur un autre aspect. L'incarnation du Christ est non seulement une joie pour l'humanité, c'est une joie pour toute la création. Car le Verbe éternel et incréé, en cette nuit, se fait matière et créature. C'est dans un corps fragile qu'il sera rencontré, entendu, vu et aimé. Dans le psaume composé pour les vêpres de la Nativité, François chante « Que les cieux se réjouissent et que la terre exulte, que jubile la mer avec ses habitants, que fleurissent les plaines et chantent les forêts. Chantez-lui un cantique nouveau, chantez le Seigneur terre entière. » Greccio devint le lieu où trouver la paix de Dieu, comme Bethléem l'avait été pour les bergers. Et cette paix n'est pas réservée à quelques-uns, c'est une paix cosmique qui est chantée en cette nuit, une paix qui s'adresse à tout l'univers réconcilié avec Dieu. À l'époque de François, en effet, un groupe appelé les cathares défendait que l'univers visible était l'œuvre du diable et que le monde matériel était vecteur du mal et instrument de tentation et de corruption. Au XIIIe siècle, les cathares d'ailleurs seront violemment persécutés. François, lui, répond à leur hérésie non par la violence, mais en célébrant la venue du Christ dans la chair et en composant le Cantique des créatures qui commence par les mots « Laudato si », ces mots qui ont été repris en 2015 par le pape François dans son encyclique sur la sauvegarde de la maison commune, c'est-à-dire la sauvegarde de la création. C'est pourquoi dans la description que Thomas de Celano nous fait de cette nuit, il nous rappelle que la nuit illuminée se fait aussi délicieuse pour les animaux que pour les hommes. Et cette nuit résonne d'harmonie. Les bois retentissaient de chants et les montagnes en répercutaient les joyeux échos. Cette scène de ferveur religieuse restaure, symboliquement, l'harmonie de la création et la communion avec Dieu. D'ailleurs, François désirait qu'à Noël, les bœufs et les ânes reçoivent une ration supplémentaire d'avoine et de foin. Il écrit « Si je voyais l'empereur, je le supplierais de publier un édit ordonnant à tous ceux qui le peuvent de semer du grain sur les routes en ce jour de fête pour le régal des petits oiseaux et surtout de nos sœurs les alouettes. Je voudrais aussi, par respect pour le Fils de Dieu, quand cette nuit la bienheureuse Vierge Marie coucha dans une mangeoire entre le bœuf et l'âne, tous soient obligés de donner à nos frères bœuf et âne un abondant fourrage. » Mais par-dessus tout, François souhaitait qu'en ce jour de Noël, tous les pauvres et les mendiants soient régalés par les riches. Je vous propose maintenant d'entendre la fin du récit de cette nuit de Noël.
Au nombre des grâces prodiguées par le Seigneur en ce lieu, on peut compter la vision admirable dont un homme de grande vertu reçut alors la faveur. Il aperçut, couché dans la mangeoire, un petit enfant immobile que l'approche du saint parut tirer du sommeil. Cette vision échut vraiment bien à propos, car l'enfant Jésus était, de fait, endormi dans l'oubli au fond de bien des cœurs jusqu'au jour où, par son serviteur François, son souvenir fut ranimé et imprimé de façon indélébile dans les mémoires. Après la clôture des solennités de la nuit, chacun rentra chez soi, plein d'allégresse. La crèche est devenue un temple consacré au Seigneur. Sur l'emplacement de la mangeoire, un autel est construit en l'honneur du bienheureux Père François, afin que là où des animaux ont autrefois mangé leur nourriture composée de foin, les hommes mangent désormais, pour la santé de leur âme et de leur corps, la chair de l'agneau sans tache, Jésus-Christ notre Seigneur, qui, dans son immense et ineffable amour, se donna lui-même à nous, lui qui vit et règne éternellement glorieux avec le Père et le Saint-Esprit dans tous les siècles des siècles. Amen. Alléluia, alléluia.
Au cours de cette nuit, Thomas de Celano raconte qu'un homme de vertu, probablement l'ami de François, Jean Vélita, aperçoit une vision étonnante. Un petit enfant endormi dans la mangeoire. Souvenez-vous qu'il n'y avait pas de représentation de l'enfant Jésus dans la mangeoire. Et ce petit enfant dort. Il dort puisque, écrit Thomas de Celano, l'enfant Jésus, dans le cœur de beaucoup, a été livré à l'oubli, et que, chez les mêmes personnes, il est ressuscité à travers son serviteur François et s'est imprimé dans une mémoire attentive. La vision de cet enfant Jésus, qui sort de sa torpeur et s'éveille, est un don de l'Esprit donné à tous ceux et celles qui, comme François, contemple l'incarnation. L'enfant Jésus renaît dans leur cœur. À l'époque de François, la prédication de l'Église mettait l'emphase sur le retour final du Christ pour le jugement dernier. C'était la seconde venue du Christ. Et cette prédication invitait à la conversion et à la pénitence en suscitant la peur de celui qui vient juger, qui vient peser, récompenser et punir. On évoquait la terreur des flammes de l'enfer et du purgatoire, et on insistait sur le fait que peu seraient épargnés. Cette emphase sur le retour futur, sur la seconde venue du Christ, avait fait oublier sa première venue, sa venue à Noël, et surtout la manière dont il est venu jusqu'à nous. Au contraire de la prédication qui soulignait le retour du Christ glorieux, François prêche, au contraire de cette prédication médiévale qui soulignait le retour du Christ vainqueur, François prêche l'humilité de Dieu lors de sa première venue parmi nous, sans violence ni cataclysme. Plutôt qu'appeler à la conversion et à la pénitence par la peur, François nous y invite par amour, par désir de marcher dans les traces du Christ, qui sont simplicité, pauvreté et humilité. Il oppose la confiance à la peur, la tendresse à la violence. Le génie de la prédication de François sera de tourner l'attention de ses contemporains et de l'Église. Notez la présence du prêtre et de son émotion au cours de cette nuit de Noël. De tourner donc l'attention de ses contemporains et de ses frères vers cet enfant inoffensif, l'enfant de Bethléem, en apposition à l'emphase mise sur le Christ qui vient à la fin du monde pour juger. Nous avons oublié la naissance de Jésus et la manière dont il est né, nous rappelle Celano. Il est né dans la fragilité, un petit enfant qui compte sur Marie et Joseph pour tous ses besoins. Le Christ se fait l'enfant Jésus, et qui peut avoir peur d'un enfant? Avons-nous oublié que le Christ fut d'abord un bébé? L'enfant Jésus a-t-il été livré à l'oubli dans nos cœurs? Pour préserver la mémoire de cette nuit, on construit donc une chapelle sur le lieu, afin que, désormais, les hommes y mangent, pour la guérison de l'âme et du corps, la chair de l'agneau immaculé et sans souillure. François, lui, demeura retiré à l'ermitage de Greccio dans une plus grande solitude pendant les 5 premiers mois de 1224, ne retrouvant ses compagnons que pour la prière et de rares repas. À la fin du mois d'août, il se rend sur le mont de l'Alverne pour y vivre une retraite de 40 jours en préparation pour la fête de Saint-Michel. Il est accompagné seulement par quelques-uns des premiers compagnons, Léo, Angelo, Rufino et Masseo, et c'est là qu'il recevra les stigmates de la Passion du Christ. Mais jamais il n'oubliera cette nuit de Noël, qui a illuminé les dernières années de sa vie, et qui a été pour lui comme une nouvelle naissance après une période sombre, marquée par le doute sur lui-même, le doute sur sa fraternité. Cette nuit de Noël où, nous dit son biographe, il devint enfant avec l'enfant. L'événement de Greccio, pourtant si riche de références à la forme de vie révélée à saint François, a souvent été commenté uniquement d'un point de vue folklorique et spectaculaire. Bien sûr, il faut noter son génie pour entrer en relation avec la religiosité populaire de son époque en rendant accessible le mystère qui est au cœur de l'histoire du salut. Il faut noter aussi sa vision spontanée, populaire, de la naissance de Jésus et son influence dans la représentation de la crèche, ainsi que son intérêt pour des jeux de mise en scène, dont il fera d'ailleurs preuve à d'autres moments de sa vie. François d'Assise a sa place dans l'histoire de la culture médiévale et dans la naissance d'une nouvelle tradition, celle de la représentation de la scène de la Nativité. D'un point de vue historique, François n'est pas l'inventeur des crèches telles que nous les connaissons aujourd'hui. Mais il est incontestable que l'événement de Greccio, prolongé par la suite par la prédication des frères mineurs, a initié un mouvement décisif dans la manière de fêter Noël dans la chrétienté. D'ailleurs, la première crèche inanimée est due à l'initiative du premier pape franciscain, Nicolas IV, qui commanda la réalisation d'une sculpture pour commémorer justement cet événement de Greccio. Tout ceci nous aide à comprendre que François ne força pas la main de la tradition. Il ne se comporta pas comme un innovateur à tout prix, avec le risque peut-être de désorienter ou de scandaliser. Mais il se servit de rites, d'images, d'un langage, en somme, que tous pouvaient comprendre et partager. Car tel était son but, enseigner par son exemple. François n'a donc rien inventé. Son génie pastoral a été de redonner à la nativité de Jésus toute sa profondeur et de l'actualiser en la mettant en relation avec l'Eucharistie. Bien qu'à notre époque la crèche soit souvent considérée comme une décoration de Noël parmi d'autres, fortement commercialisée et parfois de mauvais goût, ne perdons pas de vue que cette représentation de la nativité demeure une affirmation sans équivoque de notre foi en l'incarnation du Christ. Que contemplait François cette nuit de Noël 1223? Il ne contemplait pas simplement une scène charmante. Il contemplait le choix de Dieu de venir à nous, de s'abaisser, d'entrer dans la création pour que nous puissions, nous, le connaître tel qu'il est et pour que nous puissions entrer en communion avec sa divinité. Saint Irénée de Lyon écrit « Car telle est la raison pour laquelle le Verbe s'est fait homme et le Fils de Dieu, Fils de l'homme. C'est pour que l'homme, en entrant en communion avec le Verbe et en recevant ainsi la filiation divine, devienne Fils de Dieu. » Et pourquoi le Verbe s'est-il incarné? Le trappiste Thomas Merton répond « Parce qu'il aimait ses créatures, et parce qu'il ne pouvait pas supporter que ses créatures l'adorent simplement comme distant, transcendant et tout-puissant. » Comme l'écrit le franciscain Éloi Leclerc dans son très beau livre « Le soleil se lève sur Assise », la vie divine n'était plus à chercher hors des fragilités de la vie humaine, ni hors de la création matérielle. Cet infini respect pour la fragilité de toute vie ne nous appelle-t-il pas, nous aussi, à avoir une infinie tendresse envers toute vie? Voir et faire voir, cela n'était pas simplement une idée touchante ou une initiative audacieuse de la part de François. C'était toute sa vie ardente, tout son être, toute sa quête de Dieu qui s'exprimait dans ce désir de voir l'enfant divin dans le dénuement de la crèche. En terminant cette série de méditations sur le mystère de Noël avec le regard émerveillé de François, je vous partage cet autre très beau texte du franciscain Éloi Leclerc. Voir et faire voir le Très-Haut Fils de Dieu, naissant au monde dans l'humilité et la pauvreté d'une crèche entre des animaux, rien n'était plus important pour l'avenir du monde. Dans une société de marchands où l'argent était roi, quoi de plus utile que de faire éclater la gratuité de Dieu. Dans un monde de clercs, avide d'honneur et de pouvoir, quoi de plus salutaire que de rappeler l'humilité de Dieu. Et dans un temps de violence, de croisades et de guerre sainte, quoi de plus urgent, de plus nécessaire que de faire voir la douceur de Dieu. Encore aujourd'hui, quoi de plus urgent pour notre humanité déchirée par la cupidité et la violence que de porter à nouveau un regard émerveillé sur l'humilité et la pauvreté de l'enfant Jésus. Dans une société où tout s'achète, où tout se jette, y compris les êtres humains. Quoi de plus urgent que de faire éclater la gratuité de Dieu? Je vous souhaite à tous et à toutes de retrouver ce regard émerveillé devant Dieu qui se fait enfant Jésus. Et je vous souhaite à tous et à toutes une sainte nuit de Noël.
À déroulement du livre, vous venez d'entendre le frère Louis Cinq-Mars, capucin, dans sa série intitulée « Voir et faire voir l'enfant de Bethléem ».